Quand j'ai dit à mon père, papa, ça, ça s'appelle incestuel. Il a dit, c'est de la folie, c'est du délire. T'es complètement à côté de la plaque. Voilà.
Eh ben, on est content de vous retrouver pour cette deuxième émission où on va encore continuer à parler des mécanismes de silenciation quand on parle d'inceste à nos familles. Du coup, c'est toujours Fantomette, Rita et Malou. On est avec vous encore pour à peu près une heure. À la dernière émission, on a parlé de menaces, de banalisation et de déresponsabilisation. Cette fois-ci, on va parler de psychophobie et d'autres oppressions systémiques, de culpabilisation et de sacralisation de la famille. Dans cette émission, il y aura encore les formats de discussion qu'on a entre nous trois sur les mécanismes de silenciation, entrecoupés de témoignages soit de copaines, soit qu'on a eu aussi à Forcalquier dans un festival qui s'appelait « Pour en finir avec l'inceste » qui avait lieu en octobre 2023, soit de musique. Du coup, voilà, on vous souhaite une bonne écoute et bonne écoute.
Talk about psychophobia.
Oh yeah.
Est-ce qu'on a vraiment commencé?
Oui.
Ok. Et ben oui, on va parler pour une petite traduction de l'anglais de Malou, on va parler de psychophobie. Et de comment c'est souvent très utilisé pour enlever de la valeur à la parole de la personne qui essaie de dénoncer, qui parle, qui manifeste. Qui s'est passé un truc vraiment, vraiment foireux.
Du coup, la psychophobie, c'est le rejet et la discrimination basée sur des troubles de santé mentale présumés ou avérés, ou en tout cas de rejeter les personnes qui auraient des troubles, enfin des troubles.
Les fous folles, quoi.
Les fous folles, quoi.
Moi, j'ai l'impression que c'est quand même très utilisé, la psychophobie, dans les cas d'inceste, de... soit enfin dans deux sens quoi, soit de pas prendre en compte les traumatismes alors qu'il y en a parce qu'on rentre pas dans les cases de personnes considérées comme fous ou folles, soit à l'inverse de rendre fous ou folles des personnes qui par ailleurs le sont ou le sont pas, peu importe, mais en les décrédibilisant sur le fait que non, c'est ce que ces personnes racontent, c'est pas la vérité parce que c'est des personnes folles. Du coup, soit c'est effectivement des personnes folles parce que c'est des personnes qui sont traumatisées par l'inceste ou pour plein d'autres raisons. Et du coup, on se dit que les personnes folles mentent. Et du coup, c'est pas vrai. Si ces personnes racontent des cas d'inceste, parlent de l'inceste, elles ne sont pas crues, encore moins crues. Mais comme je pense si les personnes parlent de plein d'autres situations. Mais du coup, c'est des personnes qui sont encore moins crues et, ou alors d'être encore plus accusées d'être responsables de ça. Et quand c'est des personnes qui sont pas folles, on va les accuser de quand même exagérer, de se raconter des histoires, de s'inventer des choses, d'avoir des faux souvenirs.
Bah oui, par exemple, enfin, la mémoire amnésique, enfin, j'ai l'impression, le fait d'oublier, ce qui est un truc qui arrive assez souvent à des personnes qui vivent de l'inceste ou des traumatismes dans l'enfance ou à un jeune âge, d'oublier ce qui s'est passé, ça va faire un truc de... bah, t'en as pas parlé pendant 15 ans et puis t'en parles à tes 25, tes 30 ans et les gens vont te dire mais pourquoi t'en as pas parlé avant, en fait ça sort de nulle part, c'est complètement décalé et donc ça va complètement ignorer la réalité de qu'est-ce que c'est l'amnésie traumatique et ça va aussi genre représenter la personne comme quelqu'un qui tout d'un coup pète complètement les plombs et sort des dingueries, des choses étrange, alors que c'est le fruit d'un long processus, mais qui est juste invisible aux yeux des personnes qui refusent de regarder ce qui se passe, quoi.
Oui, il y a tout un déni de comment fonctionne le traumatisme et comment fonctionne le PTSD, qui est le syndrome de stress post-traumatique que beaucoup de personnes qui ont subi de l'inceste ont. Et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les effets du syndrome de stress post-traumatique et qui, du coup, décrédibilisent tous les...
Oui. De légitimiser ça par dire que c'est des crises d'ado.
Des caprices.
Ouais.
Les enfants rois font des caprices. Par exemple, un enfant qui va avoir des grosses insomnies, au lieu de se dire... C'est une des manières de silencier. Au lieu d'aller voir l'enfant et de lui dire « Ok, peut-être... » Enfin, au lieu de prendre en compte le stress de l'enfant qui fait qu'il y a des insomnies, les personnes vont plutôt se dire « C'est un enfant chiant, il m'embête, c'est un enfant difficile.
Ouais. »
De ne pas écouter les symptômes qu'à l'enfant, de ne pas les écouter, de ne pas les analyser et ouvrir la porte à l'inceste, mais plutôt de refaire peser les symptômes du traumatisme à l'enfant, comme c'est de sa responsabilité, c'est pour emmerder le monde, et ça apprend très tôt à se taire.
Les autres mécanismes aussi de silenciation, quand t'es devenu adulte, c'est aussi de te reprocher, soit t'es fou, folle, soit t'es une personne marginale, une personne queer, une personne féministe, en tout cas bornée dans une manière de voir les choses qui fait juste chier, quoi. Et du coup, ça, c'est aussi une manière de silencier, de décrédibiliser, quoi, la parole qui viendrait dénoncer.
Un des problèmes, c'est que vraiment la psychophobie, c'est un cadeau pour les dynamiques de silenciation, parce que c'est dès qu'il y a quelque chose qui sort, il peut être immédiatement invalidé. Parce que la personne serait folle, la personne serait déconnectée de la réalité. Enfin, ça fait un énorme mur entre une personne et la possibilité de parler. Parce que si tu sais que tout ce que tu vas dire va pouvoir être décrédibilisé avec des outils psychophobes, bah, ça grignote progressivement la confiance en sa capacité de parler.
Mm-hmm.
J'ai l'impression que dans une fratrie, ça peut faire ça peut faire plusieurs dynamiques, mais ça peut faire aussi des dynamiques où il y a un enfant, par exemple, qui va lui parler systématiquement, son mécanisme de défense, ça va être d'ouvrir sa gueule, pas forcément en nommant spécifiquement ce qui se passe, mais en ayant énormément de colère, en ayant des accès de rage ou de choses qui sont perçues comme de la folie, et cet enfant-là va être très souvent assez violemment réprimé ou puni par les parents. Et d'autres enfants qui sont autour, qui ont aussi des traumatismes, souvent c'est un peu dans les fratries, ça peut être partagé, vont aussi vivre une espèce de psychophobie par procuration de « regarde ce qui se passe si tu pètes un plomb ». Parce que ça engendre des punitions qui sont énormes, et donc ça fait de la menace et de l'intimidation pour tous les gens qui sont autour et qui ont peur de lâcher prise, quoi.
Il y a la menace aussi de l'hospitalisation. En fait, si les gens me pensent fou ou folle et pensent que je me suis inventé des souvenirs, que je me suis inventé une histoire, il y a la menace très forte de la psychiatrisation, de la médicalisation. Surtout si les autres enfants, par exemple de la fratrie, ont subi ça. Quand t'es une personne, un des enfants valides, ça fait peser une pression très forte qui te dit qu'il faut va pas falloir trop l'ouvrir ou montrer les symptômes que t'as, quoi. Et quand t'es l'enfant, dans les fratries, ça peut faire des dynamiques où, à l'inverse, l'enfant fou, on va beaucoup lui renvoyer de « Regarde, ton frère ou ta sœur n'est pas comme ça. » Pourtant, il ou elle a été éduqué de la même manière puisque c'est les mêmes parents. Et du coup, c'est bien toi le problème. C'est toi le problème puisque regarde les autres enfants de la famille. Regarde la famille, elle tient. Regarde tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, ta fratrie. Personne n'a dénoncé ça. Personne n'a parlé de ça. Tout est normal. Du coup, c'est bien toi le problème. C'est toi qui t'invente des choses. Et en fait, ce qui est très pernicieux avec la psychophobie, c'est que on a parlé d'amnésie traumatique, mais même dans les cas de souvenirs, c'est des souvenirs qui remontent parfois à quand même très très longtemps, des souvenirs qu'on a même voulu oublier. Et en fait, dans les cas d'inceste, c'est rare que des personnes soient très très au clair avec exactement ce qui s'est passé. C'était quand, c'était avec qui, c'était dans quel espace, j'avais quel âge, c'était quelle année, on était dans quelle maison. C'est assez rare d'avoir des souvenirs très très très... C'est pas assez rare, mais en tout cas... Je m'aperçois que comme assez couramment les gens ont beaucoup des doutes ou plutôt des malaises, des cauchemars, des sensations et pas forcément des souvenirs ultra précis, et du coup c'est assez facile d'utiliser le levier de la psychophobie pour faire taire les gens, parce que souvent j'ai l'impression qu'on est énormément à beaucoup déjà douter de ce qui nous est arrivé, de savoir que ça s'est passé, de savoir qu'on a vécu de l'inceste, mais d'avoir pas exactement chaque situation précise en tête, et du coup qu'on vienne appuyer sur tu t'inventes des histoires, c'est pas vrai, plutôt que de chercher si tu ressens ça, peut-être on va faire des recherches sur est-ce que à tel moment tu as dormi avec telle personne ou je sais pas quoi, est-ce que cette personne t'a gardé enfant ou je sais pas quoi, plutôt que de faire l'enquête ensemble, les personnes vont plutôt dire c'est, non, par exemple tu as raconté une histoire où tu dis que ça s'est passé dans telle maison, c'est pas possible puisque dans telle maison ton grand-père était déjà mort à cette époque-là, enfin je sais pas, ils vont toujours trouver le petit détail pour décrédibiliser et du coup te remettre tout sur toi comme quoi c'est toi qui invente quoi.
Et moins t'as de souvenirs, plus c'est difficile de se convaincre qu'ils ont pas raison. Enfin, c'est dur comme lutte de garder confiance en soi-même et une espèce de sensation qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé sans souvenir, avec une team en face qui te répète que tu pètes un câble.
Et juste tout à l'heure, tu parlais des conséquences du trouble post-traumatique et tout. C'est vrai que du coup, ça peut avoir comme effet de continuer à essayer de dire, enfin, juste parce que le trauma que ça crée fait qu'on peut être en boucle pendant des années à essayer de se dépatouiller de ça. Et ça peut être un reproche fait par la famille, en fait, d'un truc de, en fait, tu guéris pas assez vite, ou alors oui, on en a déjà parlé, oui, bah voilà, bah maintenant tu vas avoir un ou une psy. Et du coup, ce truc de pas prendre en compte que ça s'étale dans le temps.
Puis de nous rendre responsables d'avoir une injonction à guérir. Ouais. De, voilà, non seulement des fois on nous rend responsables de l'agression, des agressions en elles-mêmes, ou du climat, mais en plus on nous rend responsables de pas guérir assez vite. Comme si c'était un choix de rester dans un espèce de syndrome de stress post-traumatique et de pas faire l'effort de vouloir en sortir.
Et aussi comme si c'était un peu par goût pour la thématique de l'inceste, d'en parler comme ça.
Ouais, c'est enfin, pas ton obsession pour l'inceste, voilà. Quoi.
Moi, souvent, je sais que je dis ce truc-là, de dire, mais en fait, ça me fait pas kiffer, c'est juste que je suis obligée de passer par là parce qu'il y a des bouts que je dois réparer et c'est pas de ma faute, en fait.
On a entendu un témoignage d'une personne qui disait qu'une personne de la famille avait dit « Oui, mais c'est à la mode. C'est à la mode dans le sens... en fait, c'est ça qui rend intéressant aujourd'hui dans la société, c'est d'avoir été incesté. Enfin, tous les trucs MeToo,
l'inceste.
Ouais. Et du coup, c'est une manière de faire son intéressante parce que l'inceste, c'est à la mode. Du coup, plein de courage aussi, un petit big up de plein de courage. Déjà, quand on a des souvenirs très précis, c'est très dur de se faire entendre et de pas se faire silencier et de pas subir de psychophobie. Mais quand on n'a pas de souvenirs, c'est parfois encore plus difficile de se faire confiance. Du coup, faites-vous confiance.
Ouais, ouais. Force.
Du coup, il y aurait aussi l'imaginaire collé aux personnes traumatisées. Et dans ce cas-là, ça ressemble plus à un truc un peu de discrimination positive, dans un sens où si t'es traumate, mais que tu réussis à l'école, par exemple, on va te reprocher. Tu réussis, donc de quoi tu te plains pour vraiment minimiser et grâce aux clichés autour de la personne qui a des traumas, qui serait censé aller très mal et ne rien réussir, et le fait de réussir, ça vient aussi nous déposséder du trauma qu'on dénonce.
Oh, de pas nous croire. De dire, si vraiment tu avais été incesté, tu aurais été un enfant sans amis, tu aurais été un enfant mauvais à l'école, ouais. Tu aurais forcément redoublé. Du coup, quand on n'a pas des bonnes gueules de victimes,
selon des normes fuckées,
très psychophobes,
entre autres,
on va pas être non plus entendu de.
Quand tu peux pas gagner, t'es trop traumatisé ou pas assez quoi.
C'est ça.
Dans toute cette histoire, ça me fait penser à mon père. L'hiver dernier, on s'est retrouvé à se voir après un grand moment de rupture de contact. Il est venu dans ma ville, on s'est vu dans l'appart d'un pote à moi. Moi, j'avais posé un peu un ultimatum de si on se voit, c'est vraiment pour parler des choses qui fâchent, et il avait répondu présent, il avait dit oui, moi ça me va, on va en parler, et du coup j'y avais cru quoi, et il se trouve que j'ai commencé à un moment à évoquer des détails de ce qui était arrivé avec ma sœur, comme quoi elle m'avait touché et tout ça. Et là, il a balayé un peu de la main comme ça en disant « Ouais, non, mais de toute façon, vos histoires de touche pipi, c'est pas grave » ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai disjoncté. Je me suis mis à lui crier dessus en lui disant que c'était grave et que c'était pas ça, en fait. C'était pas ça, c'était pas des histoires de touche pipi. Voilà.
Des trucs qui peuvent être dans la continuité de... On a parlé déjà de psychophobie, mais qui peuvent être dans la continuité d'utilisation de... Enfin, d'utiliser des stéréotypes ou des oppressions pour silencier des gens. Et moi, je sais qu'il y a un truc qui me met particulièrement en colère, que je trouve c'est connecté à la domination adulte, c'est tout le langage et l'utilisation du vocabulaire autour du caprice, de la crise d'ado, ouais, d'un enfant qui serait juste... en train de péter son petit câble classique et traditionnel de ses 14 à ses 16 ans, et il faut absolument pas y faire attention, et il faut absolument pas regarder. Et ça, pour moi, c'est vraiment un outil de silenciation, certainement pas que de l'inceste, mais je pense que ça marche très très bien avec l'inceste, c'est-à-dire toute manifestation de colère, de rage, de tristesse, de perte de sens, de difficultés physiques, etc., sont juste comprises au prisme de genre un caprice ou la crise d'adolescence. Et que ça permet de juste invisibiliser parfois des choses qui prennent 4 ans, 5 ans, 6 ans dans la vie de quelqu'un, qui sont la manifestation d'un truc hyper intense et qui sont juste relayées à « c'est une petite crise, ça va passer, ne regardons même pas ». Moi, je trouve ça vraiment extrêmement violent. Et je pense que ça marche aussi parce qu'on intériorise et qu'on arrive à minimiser nos propres émotions quand on s'entend répéter ça régulièrement.
Et puis que les enfants mentent. Un autre truc de la domination adulte, c'est de dire qu'on ne peut pas faire confiance aux enfants, que les enfants mentent, que les enfants se racontent beaucoup d'histoires.
Exagère. Beaucoup exagère aussi, j'ai l'impression. Parce que ce qu'ils ressentent, c'est moins intense et c'est moins réel que ce que pourraient ressentir des adultes, de toute façon. Mmh. Donc il faut y accorder moins de crédit, quoi.
Puis la mémoire n'est pas la même. Et puis, enfin, il y a beaucoup de clichés sur...
maturité.
Ouais.
Et après... Si on regarde une autre oppression systémique qui serait genre le sexisme, de voir comment bah, de manière aussi générale il peut y avoir un discours de meuf qui serait pas du tout pris au sérieux et où il y aurait aussi le fait de se prendre dans la gueule, bah en fait tu l'as bien cherché ou tu mettais en place des trucs de séduction
et d'intériorisation de ce sexisme. Et de se dire soi-même, des fois c'est plus de l'auto-silenciation du coup, mais de se dire soi-même, est-ce qu'on l'a pas un peu cherché, est-ce qu'on n'a pas un peu provoqué, séduit.
Et puis je pense qu'être particulièrement terrible avec ça, c'est que souvent l'inceste, ça s'accompagne d'une relation d'emprise, dans laquelle, et de dépendance affective, surtout si ça commence quand on est extrêmement jeune. C'est rare de haïr immédiatement et complètement la personne qui nous inceste, parce qu'elle est insérée dans un réseau de tissu affectif qui est compliqué, et donc de savoir... qu'on a eu de l'affection pour la personne qui nous a fait ça, c'est très facile pour des discours misogynes, par exemple, d'instrumentaliser ça en disant bah tu l'aimais bien, tu cherchais sa compagnie, t'étais affectueux, affectueuse, et de lire ça au prisme d'un espèce de truc de séductrice, qui est en fait juste la manifestation d'une personne qui fait ce qu'elle peut avec les liens affectifs aussi foireux qu'ils soient dans sa vie, quoi. Et qui peuvent être façonnés par la misogynie, mais de fait c'est un truc subi, pas un truc choisi. Comme la transidentité, c'est un truc qui est souvent perçu comme une perversion sexuelle, j'ai l'impression que la capacité à être reconnue en tant que personne trans pour dénoncer l'inceste, alors qu'on est déjà considéré comme des espèces de déviants sexuels, ça vient créer un paquet de nœuds vraiment dégueux qui complique considérablement, encore une fois, la libération de la parole ou le fait de pouvoir être entendu.
Du coup, par rapport à la silenciation en lien avec toutes les oppressions systémiques, c'est vrai que quand on vit une oppression systémique, souvent on voit que ça vient directement servir les processus de silenciation. On peut se dire que ce qui fait que t'es minorisé, du coup que t'es dominé, ça va venir précisément légitimer le fait que tu sois silencié. Enfin, ça va permettre directement le fait que tu sois silencié. Par exemple... je sais pas, si on prend le cas des personnes handi, bah, le présupposé autour de l'absence de sexualité des personnes handi va permettre qu'il y ait une invisibilisation du fait de ce présupposé d'absence de sexualité. Bah, il va y avoir une invisibilisation qui s'étend jusqu'aux violences sexuelles qui peuvent être subies. Par exemple, il y a aussi des manières d'être racialisées qui vont avec des préjugés de sursexualisation des enfants, d'adultification des enfants, et ça peut rendre beaucoup plus difficile le fait de pouvoir en parler et d'être entendu.
Et on pourrait parler encore de beaucoup de choses concernant les oppressions systémiques. On va pas faire une liste un peu de tout ce qui peut faire silencier quand les personnes subissent une oppression systémique. Et il y a des personnes qui ont déjà fait le taf de ça aussi. On va essayer de mettre des liens en dessous de personnes qui vivent différentes réalités d'oppression et qui vont pouvoir aussi raconter, qui parlent de cette difficulté à parler d'agression sexuelle ou d'inceste liée aussi aux oppressions systémiques qu'elles subissent. Et du coup, voilà, bien sûr, quand tu es au croisement de plusieurs oppressions, bah, ça va aussi être des choses qui vont être renvoyées et qui vont... bah, rendre encore plus difficile le fait de parler et d'être entendu. De la même manière, quand ton agresseuse subit aussi des oppressions systémiques, ça peut rendre aussi plus difficile le fait de parler, d'être entendu, parce que soit t'as pas envie que la personne soit renvoyée dans ces clichés d'oppression systémique, par exemple une personne folle ou une personne pauvre qui t'a agressé, t'as pas envie que les gens se saisissent d'arguments psychophobes ou classistes pour en vouloir à cette personne. À l'inverse, des fois aussi, les personnes déresponsabilisent les personnes qui t'ont agressé et rendent ton agression pas importante parce que les personnes vivent aussi une oppression systémique, par exemple. Bah encore le cas d'une personne folle, bon bah oui, mais cette personne est folle, du coup elle a pas fait exprès ou elle a pas voulu faire ça. Mmh. Et en fait, quand bien même on comprend les réalités de ces oppressions, on peut quand même avoir, enfin voilà, on a toujours besoin de reconnaissance et d'écoute et de protection, peu importe qui est notre agresseureuse, peu importe toutes les oppressions que notre agresseureuse subit dans la vie, même si on est, voilà, encore une fois, même si on comprend la réalité de cette oppression, ça n'empêche pas de vouloir parler, être entendu, être cru et être protégé.
Ok, alors, quand j'avais genre 18 ans, là j'ai 43 ans, ma sœur m'a amenée à l'aéroport, je partais en voyage en Angleterre, et elle avait vu traîner chez les parents des ordonnances de psy, et elle avait trouvé, et elle m'avait dit « Ah, je sais pourquoi tu vas chez le psy », et j'ai dit « Ah ouais, pourquoi ?» Elle m'a dit « Bah, en fait, il t'est arrivé ça, ça et ça ». J'ai halluciné, je dis « Ah ouais, mais comment tu sais ?» Elle me dit « Bah, ça m'est arrivé aussi ». Je dis « Mais t'en as parlé à quelqu'un ?» ?»« Non, jamais à personne ». Et en fait, ça s'est arrêté là, quoi. Elle m'a amené à l'aéroport, j'ai fait mon voyage, je suis revenue. Quand je suis revenue, j'ai pris rendez-vous chez le psy, j'ai raconté, machin. Et quelques temps après, j'ai parlé à ma mère. J'ai raconté ce qui était arrivé pour moi. Et ma mère, elle a dit « Oh, ne dis pas à mémé, hein, il lui reste 4 jours à vivre, on va pas l'embêter avec ça, ok ?» J'ai dit « Ouais, ok ». Et après, je me suis souvenue de ma sœur, en fait, à qui c'est arrivé, mais qui en avait parlé à personne. Et là, j'ai dit un truc à ma mère, j'ai dit genre « T'en parles pas à papa, hein, t'en parles pas à Laure non plus. Hein. » Parce qu'en fait, j'avais peur, en fait, je voulais pas raconter son histoire. Et du coup, bah, ma mère m'a parlé à personne. Et quelques années après, j'ai reparlé de ça parce qu'il y a eu d'autres trucs dans la famille et je suis allée voir ma mère et j'ai dit « Mais en fait, t'en as parlé à personne ?» Elle m'a dit « Bah non. » Et en fait, là, j'ai 43 ans et mon père est pas au courant, en fait. Ma mère est au courant, ma sœur est au courant, mais elle sait pas que je l'ai dit à ma mère et que, enfin voilà, le silence, il est bien là, quoi. Voilà.
Merci. Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. tendresse est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux on les débride et on s'élance dans le vide. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines,
reprendre sur la culpabilisation. Moi, j'ai la sensation que la culpabilisation, c'est quelque chose qui traverse un peu toutes les autres catégories qu'on a nommées jusque-là. Mmh. Et que j'ai la sensation que c'est souvent le premier truc qui fait quand on est adulte et qu'on réalise des choses et qu'on a envie d'en reparler, c'est le premier truc qui rebloque pour plusieurs personnes le fait de parler à sa famille, c'est de dire « Oh, mon Dieu, je vais faire exploser ma famille, je vais... call out la personne agresseuse, qui va être complètement mise au rebut. Et en fait, on a souvent peur que ça déclenche un tsunami et qu'on va faire un méga drame et que... Enfin, souvent, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai eu cette peur-là de me dire, mon Dieu, ça va tout faire éclater, la famille va être complètement détruite, ça va se déchirer dans tous les sens. Et en fait... Ben, quand on parle et qu'il se passe absolument rien, c'est souvent un peu perturbant parce que je pense que c'est souvent le truc qui fait que, enfin moi en tout cas c'est le truc qui fait que j'ai mis un peu du temps à nommer, que j'ai pris vraiment le temps pour nommer, c'était ça, d'avoir peur que tout explose et de m'en vouloir de ça.
Souvent dans les cellules familiales, le fait de vouloir venir dénoncer un inceste qu'on aurait vécu vient direct avec la peur de rajouter un problème aux gens de la famille en leur demandant de prendre en charge ta dénonciation, qui parfois vient s'ajouter sur une pile d'autres problèmes déjà présents dans la famille. Et comme ce que tu disais, avoir peur de faire exploser la famille et en tout cas anticiper qu'on va te reprocher ça, quoi, de venir encore rajouter du trouble là où il y en a déjà.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là vous parlez d'un moment arrivé une fois adulte où on ressent des effets qui sont la culpabilité qui nous empêche de parler, mais moi ça m'interroge sur comment on arrive, qu'est-ce qui fait qu'on intègre tous aussi efficacement ces trucs de culpabilité, qu'est-ce qui a été mis en place pour qu'arriver à 20 ans ou 25 ans ou 30 ans ou 40, peu importe, on décide de parler et qu'on se heurte à cette espèce de mur intérieur aussi fort. Et c'est parce que je pense que la famille met des choses vraiment activement en place qui peuvent être insidieuses ou qui peuvent être explicites, mais pour nous faire sentir que si on s'avisait de parler peut-être plus que ce qu'on l'a déjà fait, ou d'aller un peu plus loin que un petit murmure en croquette mur, ça irait très mal. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs mécanismes. Ça peut être par exemple beaucoup inverser des sentiments d'empathie qui devraient aller vers la victime, vers l'agresseuse, en disant mais en fait... la personne qui t'a agressé va mal, est fatiguée, elle est âgée, elle est malade, tu comprends. Enfin, maintenant il faut prendre soin d'elle, ou elle est si jeune, tu peux pas gâcher sa vie, tu peux pas faire ça, tu peux pas lui faire ça, il vaut mieux se taire. Et que ça, par exemple, c'est des mécanismes qui s'intègrent progressivement. Moi, j'ai l'impression que c'est des choses que j'ai pu entendre et qui font que plus tard, même 15 ans plus tard, quand il y a une partie de toi qui sait que tu t'en fous de niquer la vie de cette personne, et ben ce truc que t'as entendu pendant longtemps, je trouve il revient assez fort, de mais je vais lui faire du mal, il va être triste, et ensuite les gens autour vont être tristes, et les gens vont être en colère, et comment je vais pouvoir gérer ça, et puis ça va tout casser, et en fait l'équilibre il repose sur moi, et si je parle ça va péter cet équilibre. Enfin, comment on en arrive aux âges où on a envie de parler avec un tel degré de culpabilisation? Je pense que c'est parce qu'elle est très forte, les mécanismes mis en place pour qu'elle existe chez nous plus tard.
Et il y a beaucoup aussi la personne t'a agressé, mais elle est elle-même victime.
Ouais.
Et ça fait culpabiliser aussi de se dire la personne a fait avec les moyens qu'elle avait, puisqu'elle-même avait vécu de l'inceste étant enfant ou je sais pas quoi. Et du coup, ou alors dans une fratrie, par exemple, si c'est ton frère ou ta sœur qui t'agresse, qui elle-même ou lui-même a été agressé, bah du coup, tu sais plus vraiment si c'est une personne qui, avec qui tu es censé être complice des autres agresseuses adultes, ou est-ce que c'est quand même la personne qui t'a agressé. Enfin, ça peut faire des trucs de culpabilité, que la personne peut aller très mal et t'avoir aussi agressé.
Moi, ça me fait penser à... Ouais, le truc d'avoir dans sa famille des parents qui ont eux-mêmes été victimes d'inceste, et où du coup, quand on parle, ces personnes-là ont déjà depuis des années construit une espèce de forteresse de déni et se sont structurées en mettant sous le tapis leur trauma. Et du coup, de vouloir se faire entendre par ses parents et de vouloir les entendre reconnaître qu'on a bien été victime d'inceste, c'est... un truc impossible, sauf si on accepte de se dire que peut-être la personne, elle va avoir une montée d'amnésie traumatique,
stress post-traumatique.
Ouais, enfin, moi,
la... souvenir.
Ouais, une remontée de souvenir, quoi.
Sortie d'amnésie.
Voilà, une sortie d'amnésie traumatique avec le risque que la personne s'effondre, étant donné que toute sa vie d'adulte, la personne s'est construite en construisant vraiment une forteresse autour de ce souvenir que peut-être elle n'a pas les ressources de pouvoir affronter. Et du coup, il y a aussi toute cette culpabilisation de se dire, plus je veux me faire entendre, plus je prends le risque de faire que les personnes qui s'en sont sorties avec d'autres ressources et en s'appuyant sur du déni, bah, risquent de s'effondrer, quoi.
Je sais pas, mais moi je sais que c'est un des trucs qui m'a empêché de parler, ce que tu dis là aussi, de, en fait, parler, ça veut dire exploser ce tabou là pour tout le monde.
Ouais.
Et du coup, bah, des fois on a peur de traumatiser d'autres gens et de dire que peut-être ils vont pas avoir les billes de, ils vont pas avoir les ressources pour surmonter ça. Et du coup on a même peur de les tuer, alors qu'en fait si les gens sont dans le déni, ils vont rester dans le déni.
Ou s'ils pètent, c'est parce que c'est le moment qu'ils pètent.
Oui, c'est ça, et c'est pas de notre faute, en fait, c'est à nous. Nous, il faut penser aussi à nous. Mais c'est encore un truc de prendre soin des autres adultes de la famille, de prendre la responsabilité de la vie et des traumatismes des autres avant même de se mettre au centre nous-mêmes. Mais ça, c'est, voilà, c'est aussi des choses qui peuvent être apprises très tôt dans des familles, d'être adultifiées, de devoir prendre soin des autres, de devoir être le pilier, la centralité qui fait que tout tient... de devoir être l'adulte de nos parents et de devoir prendre soin d'eux, et du coup de surtout jamais vouloir être à la place où on risquerait de peut-être éventuellement les blesser. Et ça, c'est, les adultes peuvent nous le renvoyer comme on leur raconte nos histoires et ils se mettent à pleurer, ou ils disent « Ah, mais c'est vraiment très très dur ce que tu me racontes, pourquoi tu me dis tout ça ?»
Je peux pas le supporter.
Je peux pas supporter ça, ou tu vas faire tellement de mal, et... Enfin, voilà, de prendre sur eux-mêmes toute la tristesse et tout le désespoir, sans du tout penser que bah, peut-être là, ça serait le moment de nous laisser nous avoir de la tristesse et du désespoir et de juste nous soutenir.
Il y a de l'inceste. Quelle que soit la manière dont le système famille va s'en sortir, il va toujours trouver une manière de faire que tu vas fermer ta gueule dans un truc de... Même des choses qui paraissent absolument absurdes, mais il y a toujours une réaction en face de te culpabiliser, d'avoir dénié, sonné à la porte pour venir jouer avec ton cousin quand t'avais 6 ans... et de te reprocher ça et de te regarder comme si t'étais la pire perverse du village. Ouais, il y a quand même toujours des vieilles idéologies qui ressortent en disant que c'est la femme aguicheuse, quand bien même on parle d'une enfant de 6 ans qui vient jouer avec son cousin de 27 ans, quoi.
Ça, et je pense qu'il y a beaucoup de manières aussi de faire culpabiliser de... Enfin, pareil, une fois qu'on est adulte et qu'on en parle, de dire « mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Alors que, voilà, on le redit encore une fois, les enfants parlent, il y a des symptômes, il y a énormément de signaux, c'est qu'ils ne sont pas entendus, c'est qu'ils ne sont pas écoutés. Même quand il ne s'est pas dit avec des mots hyper clairs, souvent il y a toutes les manières du monde d'être au courant de ce qui se passe, pour les adultes autour, responsables. Mais quand bien même il y aurait eu pas de signaux, les adultes viennent nous reprocher, enfin les personnes qui étaient adultes à ce moment-là viennent nous reprocher de pourquoi tu ne me l'as pas dit, si tu me l'avais dit je t'aurais protégé, bien sûr que j'aurais pas laissé passer ça, alors qu'on sait que dans la plupart du temps, même quand les adultes ouvrent la porte et voient une situation devant leurs yeux,
Et ça arrive que les adultes juste referment la porte ou disent oui, c'était pas bien, mais voilà, n'en reparle jamais ou font taire. Enfin, ouais. C'est pas parce que les choses sont dites enfant que, ou sont, je sais pas, caractérisées quand on est enfant qu'il se passe quoi que ce soit, mais même c'est quelque chose d'hyper culpabilisant de venir remettre la responsabilité sur nous de si tu n'as pas été protégé, c'est parce que tu n'as pas su te protéger toi-même. Enfin, tu aurais dû avoir les éléments pour t'auto-protéger. Pour parler, pour dire non, pour ne pas te remettre dans ces situations-là. Enfin, ça vient remettre la faute sur les mineurs qui sont en train de vivre, sur les enfants qui sont en train de vivre des agressions, que c'est leur faute s'ils sont agressés, en fait. Mm-hmm. Ça, c'est de la culpabilisation.
Moi, j'ai l'impression que j'ai eu un petit bout de ça sur un truc de... Tu l'as pas montré assez que ça te faisait souffrir.
Ouais.
Le truc aussi de... Mais en fait, parce que moi, sur le moment, j'en avais parlé un petit peu, et les gens avaient... plus ou moins capté, mais il y avait ce truc de mais tu t'es remis hyper vite, t'étais de bonne humeur, t'étais en bonne forme, en fait t'avais l'air d'aller bien, qu'est-ce que tu voulais de plus de nous, et ouais, c'est à ta place j'aurais été plus triste, c'est voilà, c'est un truc de t'as pas été assez triste, t'as pas été assez malheureux, et que enfin c'est un truc de très insidieux, de toute façon un peu comme ce que tu disais, Rita, quoi qu'on fasse on a raté notre manière de réagir. Quoi qu'on fasse, il aurait fallu faire différemment. Après, de fait, nous, on parle avec pas mal de gens qui ont vécu de l'inceste et qui ont essayé d'en parler. Et pour l'instant, on n'a pas remarqué qu'il y avait une méthode qui était approuvée par la famille. Mais en tout cas, vraiment, ouais, toutes les branches sont bonnes pour lesquelles se raccrocher. T'es trop triste, tu l'es pas assez. Enfin, bref. Et on culpabilise de comme pas avoir réussi notre réaction à l'inceste correctement pour qu'elle soit entendable. C'est vraiment très... C'est vicieux, quoi.
Ouais. Et ça fait aussi ce truc de... Plus tu te débats pour essayer d'accomplir des choses pour toi dans ta vie, plus ça va t'être reproché sur un mode de... en fait, de quoi tu te plains? Regarde, t'as réussi, t'as fait ton master. Donc, en fait, c'est que ça va pas si mal. C'est toujours à double tranchant. Tu joues des coudes pour t'en sortir, mais en fait, après, on te le reproche en te disant que...
T'es pas une bonne victime.
Oui, tu dois sûrement pas vraiment avoir un traumatisme, parce que sinon, t'aurais pas fait ça. Tu serais pas arrivée, en fait, si vraiment t'avais vécu quelque chose de grave. La culpabilité de faire exploser la famille, elle se joue aussi de ouf par rapport aux instances, un peu les traditions de la famille, les mariages, et quand bien même... Quand les liens entre les cousins, cousines, les oncles, les tantes et tout sont un peu en veille parce qu'il n'y a pas vraiment d'événement auquel on est censé se présenter, on ne nous fait pas trop culpabiliser. Et puis quand il y a un événement, donc là par exemple, là il y a un mariage d'un cousin dans quelques mois, je sens que là tout à coup tout s'agite, tout le monde panique, mon agresseur est invité, moi aussi, tout le monde essaye de se dire que on va faire rentrer des ronds dans des carrés, ça va bien finir par marcher. Mais en fait, je suis là, non, désolée, c'est juste, c'est pareil qu'il y a plusieurs années, enfin, rien n'a changé. Dans l'idéal, les gens, ils voudraient qu'il puisse y avoir tout le monde sur la photo de famille le jour de son mariage, parce que vraiment, c'est trop la magie de se marier. En fait, il y a ce truc-là qui continue d'exister, et toi, quand t'essayes de dire, en fait, je vais pas venir, parce qu'en fait, comme je vous l'ai déjà dit, cette personne m'a insisté, et c'est hors de question que je sois sur la même photo de famille, que je sois au même événement que cette personne-là. Sauf si vous voulez vraiment que je mette des mois et des mois et des mois à m'en remettre, c'est mort. Et du coup, ça fait encore plus de culpabilité, ce genre d'instance-là, ces événements familiaux où tu dois redire « Désolé, non, mais non, enfin, ça va pas se passer, quoi.
Bah, » C'est toi qui es vu comme chiant encore, quoi.
Oui, voilà.
Chiante. C'est toi qui es encore vu comme la personne qui ramène les problèmes, comme la personne qui pose souci, la personne qui fait chier, la personne qui embrouille, la personne qui pourrit l'ambiance.
Ouais. Et par rapport à l'inversion des rôles avec l'agresseur, c'est tellement imprégné que c'est la personne qui parle, qui fait chier et qui fait du mal au système famille, que moi je me rappelle quand il y a eu la confrontation au commissariat avec mon ancêtre, il est arrivé dans la pièce dans laquelle j'étais au commissariat, il pleurait. Et j'étais là, ah ouais, ok, donc moi je viens... porter plainte parce que tu m'as incesté et que je vais galérer toute ma life avec des trucs de trauma, mais toi tu pleures. Et ça m'a presque fait un truc d'avoir de l'empathie pour lui, mais finalement non, mais quand même.
Voilà. Oui, et puis là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais que là, les familles peuvent nous renvoyer de « c'est toi qui lui fais du mal enfin, ». Ouais. Comme si, du coup, l'agression, elle venait de toi sur lui, parce que c'est toi qui risques de niquer sa vie, qui risques de... le mettre dans la merde alors que tu viens juste raconter quelque chose que t'as vécu.
Ouais. Et ça, et du coup, que je fais du mal à l'agresseur et que je fais du mal à ma famille en continuant de, entre guillemets, ressasser du passé, quoi.
J'ai parlé à plusieurs personnes de ma famille, ça s'était pas trop mal passé. Et puis après, des personnes m'ont parlé d'autres gens de ma famille. Et là, ça a été un gros bug parce que j'ai découvert que en fait, ma tante qui m'avait virée de sa vie un jour, sans que je comprenne pourquoi, du jour au lendemain, plus moyen de la joindre, plus rien, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, c'est parce qu'elle était au courant que mon père était un pédocriminel et que en fait, elle a dû se dire, ouais, je sais pas comment trop lui en parler, est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle sait pas, enfin bon bref. Donc elle a complètement mis le truc sous le tapis. Elle en a parlé à sa sœur, donc je sais que mon autre tante est aussi au courant. Elles se sont même posé la question de savoir si moi j'avais été agressée, mais ça l'aurait pas venu à l'idée de me le demander. Et puis quand elles sont parlé entre elles, elles m'en ont pas parlé, elles m'ont coupé de leur vie. Sauf que le petit truc sympa, le petit complément dans cette affaire, c'est que quand elles m'ont coupé de leur vie, moi j'avais 3 enfants en bas âge, quoi, et que les 3 enfants en bas âge fréquentaient régulièrement leur grand-père, donc elles ne m'ont pas prévenu que mes enfants étaient en danger. Donc elles ont choisi leur petite tranquillité, pépère, et puis elles m'ont laissé me démerder avec ça et avec le risque que ça faisait courir à mes enfants. Voilà.
Un des autres mécanismes qu'on voit assez présent dans pas mal de situations, c'est le fait que la famille elle soit hyper sacralisée. Par exemple, il y a énormément une injonction à la loyauté, et le fait que quand on commence à dénoncer comme ça des faits d'inceste, ce qu'on se prend en retour et qui nous silencie, c'est en fait la famille, elle va rester la famille quoi qu'il arrive, elle est là, elle doit rester unie, elle doit rester stable, c'est pour le bien de tout le monde. Donc en fait, ce que là t'es en train de dénoncer, en fait plutôt tu vas te le garder, parce que c'est plus important de faire unité que de prendre en considération ce que t'es en train de dénoncer. Parfois, quand il y a aussi des bails de religion ou de communauté dans les familles, ça vient prendre encore une autre ampleur, parce que ça fait que l'image sociale qu'il faut préserver d'une bonne famille qui est fonctionnelle et aimante, etc., cette image sociale, elle doit aussi perdurer, pas seulement au sein du cercle familial, mais plus largement au sein de la communauté religieuse ou autre. Et du coup, il y a d'autant plus un truc de silenciation qui se met en place. Ouais, de maintenir une image pas salie par des violences sexuelles.
Et en France, par exemple, on est aussi à une culture catholique qui est quand même très présente, et j'imagine que c'est la même chose dans les autres religions, mais il y a une grosse injonction au pardon aussi, du coup, ce qui peut pousser les familles à nous dire « Ok, passe à autre chose. » En fait, pardonne, oui, ok, il s'est passé ça, mais en fait, là, il faut que tu pardonnes, il faut que tu passes à autre chose, et du coup, arrête d'en parler. Enfin, c'est aussi des manières de silencier. Ta mère, c'est ta mère, ton père, c'est ton père, ta famille, c'est ta famille, on n'en a qu'une, on les choisit pas. Il y a beaucoup ce truc-là de, oui, oui, les parents, on les choisit pas. Ta mère, c'est celle qui va t'ouvrir la porte du paradis, ou des choses comme ça qu'on peut entendre, qui font que c'est très compliqué d'apporter une critique, en fait, sur des choses qui se sont passées. En fait, comme si le fait d'apporter une critique, ça faisait qu'on détruisait la famille.
Moi, je sais que un truc que je trouve assez puissant, c'est que j'ai l'impression que les familles, de manière générale, enfin, j'ai l'impression que la plupart des familles, elles ont le pouvoir de s'auto-raconter. tu passes énormément de temps avec un groupe de personnes données et tu crées ce qui est un peu une mythologie familiale, parce que ça part de, je sais pas, parfois une ou deux générations avant, on est ce genre de famille, on fonctionne comme ça, on fait ça dans la famille, et que c'est des histoires. Enfin, la famille, c'est un endroit où les gens se racontent des histoires sur elles-mêmes et comment ils fonctionnent ensemble. Et souvent, ces histoires de, bah, on est une famille qui, une famille aimante, on est une famille qui communique beaucoup, on est une famille ci, on est une famille ça. Et résultat, avant même, je suis même pas sûr que ce soit toujours créé dans des intentions par rapport à l'inceste. Je pense que toute famille, pour survivre, a besoin de se raconter une histoire sur comment elle est bien et fonctionnelle, et c'est quasiment toujours des mensonges. Enfant d'une famille, on intègre l'histoire que la famille veut bien se raconter sur elle-même. C'est dur, ensuite, de se rendre compte ou de venir taper dans cette espèce de structure figée de... Pour donner un exemple, moi je sais que ma famille se disait beaucoup, nous on est une famille qui communique, ce qui est faux, c'était juste une famille avec que des gens qui aimaient beaucoup parler, mais ça n'est pas du tout la même chose que communiquer. Mais j'ai l'impression que moi c'est un piège dans lequel je me suis retrouvée, de me dire, on communique, et donc ça va.
Ce que tu dis, Fantomette, ça me fait penser que moi la mythologie de ma famille, ça va être, on est une famille libre... on est, enfin, ma mère est naturiste, ils aiment pas les curés, la religion, etc. Et du coup, de se raconter que les autres sont prudes et que nous on l'est pas, parce que du coup, bah oui, il y a un truc de sexualité hyper affiché, de sexualisation de nos propres corps, mais de aussi faire énormément de blagues de cul avec ses enfants, ou des choses que qui sont racontées, mais je pense comme il y a pu avoir peut-être après les années 68 aussi, moi c'est des choses que j'ai beaucoup entendues, beaucoup lues sur certains contextes, que moi j'ai l'impression qu'il y a dans ma famille de... C'est pas bizarre ou c'est pas problématique, c'est juste que les autres sont prudes et nous on est libérés.
Et par rapport à l'injonction au pardon, dans la famille religieuse de laquelle moi je viens, il y a vachement cette injonction-là qui est revenue, de dire en fait, il suffit de pardonner. Et comme on te l'a appris depuis ta tendre enfance, le pardon, ça va amener un apaisement et tu vas retrouver la paix, quoi. Et comme si c'était une fin en soi, en fait, pardonner et puis ne plus jamais en parler et puis garder le sourire, quoi.
Parce que c'est marrant, tu parles de paix. Moi je trouve que c'est aussi ça, enfin, la famille c'est la sacralisation de la paix sociale à plein d'endroits, ou en tout cas il faut que d'une manière ou d'une autre sur le long terme tout le monde s'entende ou fasse pour de faute s'entendre, et c'est ça, chacun doit mettre son tribut, quoi, chacun, chacune doit payer le prix pour la continuité de la famille, parce qu'il faut pas qu'elle s'arrête, enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça aussi, il faut pas qu'elle se finisse, faut pas qu'elle se casse la gueule. Et on est tous rapidement confrontés à une espèce de responsabilité de faire en sorte que la famille, elle tienne et qu'elle se maintienne dans une paix. Alors j'ai l'impression que paix, ça peut être relatif dans certaines familles, ça peut s'engueuler tous les jours, mais ça peut quand même tenir, parce que c'est ça le fonctionnement. Mais l'idée, c'est que ça ne disparaisse pas, quoi. Et si tu l'as fait trop péter, bah tu sortiras de la famille, et tu peux être aussi le prix à payer pour que la famille, elle se maintienne. Enfin, tu peux aussi sortir... Parce que tu menaces trop, quoi, cette paix, relative paix familiale.
Mm-hmm. Ça m'est arrivé que dans ma famille, on ramène les symptômes d'une personne traumatisée à des choses rien à voir avec l'inceste, pour vraiment mettre de côté le plus loin possible le fait que oui, il y avait eu de l'inceste, mais étant donné qu'on veut absolument que la famille se maintienne, bah du coup on va venir chercher d'autres causes aux symptômes du trauma de la personne qui a subi de l'inceste et qui galère avec ça, quoi.
Bah, ce qui est particulier, c'est que l'inceste, c'est bien le truc qui devrait faire tomber toutes les familles, parce que c'est, je veux dire, c'est peut-être pour ça aussi que c'est autant silencieux, c'est que l'inceste, c'est bien la preuve que la famille, ça fonctionne pas. Enfin, je veux dire, la présence quasi systématique de bouts d'inceste et d'inceste dans la plupart des familles, c'est bien la preuve que cette histoire de groupe là qui se maintient ensemble à tout prix, ça marche pas. Mais justement, enfin, confronter l'inceste comme structure et comme fonctionnement global de nos sociétés, c'est constater que la famille, ça ne marche pas. Et je pense que c'était bien pour ça que si peu de gens s'y attaquent ou acceptent qu'on s'y attaque.
Dans la sacralisation de la famille, il y a un énorme paradoxe qui réside quand même dans le fait que on s'adresse à la famille, alors même que c'est la famille qui a laissé l'inceste se produire. Et d'une certaine manière, on s'adresse à une personne qui, si elle n'est pas coupable, elle est en tout cas complice, en tout cas elle n'a pas rempli le rôle de protéger les enfants qui ont après ça été victimes.
C'est chercher de la reconnaissance auprès de la famille, que c'est cette même famille qui nous a
niqué.
C'est comme aller porter plainte à la police contre les violences policières, c'est aller se plaindre à une institution de la violence de cette même institution. Y a des chances que cette institution se protège elle-même plutôt que te protège toi, finalement.
Oui, surtout si elle a autant envie de continuer à exister, quoi.
Bah moi, par exemple, ma mère, quand elle a appris que je m'étais faite incester, elle a dit, apparemment, parce que c'était pas à moi, mais c'était à mon père, mais elle a dit, ça m'étonne pas du tout.
Voilà, on s'arrête là pour cette deuxième émission. On espère que ça vous a apporté des choses. Les musiques qu'on a entendues pendant cette émission, c'était Moth de Dua Saleh et Douce de Clara Isée. La musique un peu de fond, c'est Makoto-san et on espère que vous kiffez. On va essayer de mettre les liens dans le descriptif de l'émission qu'il y aura sur Arte Radio. Et on va se quitter sur une musique de Soumeya, L'aigle et la fourmi, qui est un peu intense mais qu'on aime beaucoup. Et on se retrouvera pour une troisième émission où on parlera cette fois-ci de déni, de dissonance et d'auto-silenciation. Voilà, du coup, on se quitte là. Bonne soirée, bon temps à vous. Et puis on s'écoute Soumeya, L'aigle et la fourmi. Ciao.
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 D'en entendre parler. C'est quelque chose d'en entendre parler, c'est autre chose de le vivre. Pire, c'est autre chose de le vivre et le revivre. J'avais 6 ans, mais c'est comme si c'était hier. J'avais 7 ans, mais c'est comme si c'était hier. J'avais 8 ans, mais c'est comme si c'était hier. Et arrivé à mes 9 ans, il y avait déjà des larmes dans mes prières. Une fois que tout le monde est parti et rentre dans la chambre, je le revois me dire qu'il me fera rien de méchant. Malheureusement, au fil du temps, je commence à comprendre. Et si je pouvais, je lui couperais ce qu'il a entre les jambes. Je rentre à la maison effrayé, je fais que m'isoler. La boule au ventre à chaque fois qu'un homme se propose pour me garder. Comme si j'avais pressenti que l'histoire se répéterait, que c'était pas la dernière fois que l'aigle noir j'allais le croiser. Comme si j'avais pressenti que l'histoire se répéterait, que c'était pas la dernière fois. Je sais plus qui je suis, je veux pas de cet avenir. Tu étais l'aigle noir, je n'étais qu'une fourmi. Je sais plus qui je suis, je veux pas de cet avenir. Tu étais l'aigle noir, je n'étais qu'une fourmi. Là dans la nuit, je revois des flashbacks. Un jour de pluie, je veux chasser l'aura. Toi l'adulte là, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais ça parce que j'ai 7 ans et que je comprends pas. Mais je vais grandir et je vais le chanter dans mes couplets. Je te jure la vie de ma mère que si je pouvais tes mains je les couperais. Ceux qui font ça font partie de tes proches. Alors tu vis dans le silence forcément quand tu penses aux conséquences. C'est toi l'adulte quoi, je suis qu'une fourmi moi. J'ai que 8 ans et ta main sur ma bouche me fait mal. J'ai réalisé en grandissant, en me demandant ce qu'on m'a volé. Est-ce qu'un jour je pourrais le reprendre? Je suis qu'un enfant, moi j'ai des rêves, je suis pas une proie. Dites aux aigles noirs que je vais leur couper les ailes, y'aura plus de nuages. C'était pas que des cauchemars, j'ai vraiment vu des monstres. Derrière un beau paysage, y'a toujours un autre monde. Je me suis construite avec des sentiments très négatifs et je parais solide parce qu'au fond de moi j'ai un champ de mine. C'est quelque chose dont on entend parler, c'est autre chose de le vivre. Ce qu'on m'a volé, je veux le reprendre à travers ses écrits. Y'a pas de sujet tabou, y'a que des douleurs incurables. Alors ce soir, c'est les fourmis qui vont crier victoire. Je sais plus qui je suis, je veux pas de cet avenir. Tu étais l'aigle noir, je n'étais qu'une fourmi. Je sais plus qui je suis, je veux pas de cet avenir. Tu étais l'aigle noir, je n'étais qu'une fourmi. Tard dans la nuit, je revois des flashbacks. Un jour de pluie, je veux chasser l'orage.